Voilà. Bien, alors, on reprend. Donc, on se remet dedans, après avoir goûté ces excellents gâteaux, ces maisons. Voilà. Il faut la flatter comme ça on en aura d'autres. Bien, alors on a vu la foi, puis là on parlait justement, comment t'appelles-tu
Suzy.
Suzy, on posait des questions sur la foi. Je disais que la foi, c'est un don de Dieu, et que la foi grandit. Et pour qu'elle grandisse, il faut qu'elle soit mise à l'épreuve. Voilà, parce qu'on a, on a toujours tendance à... nous, c'est notre nature à s'attacher à ce qu'on connaît, à ce qu'on expérimente, et nécessairement, il faut que cette foi soit, lorsque cette foi de nous, c'est pas ce que je veux dire, non, lorsque nous entrons parler des nuits de l'âme tout à l'heure, lorsque nous sommes dans le désarroi intérieur, eh bien, c'était absolument nécessaire parce que notre foi s'était attachée justement. Et on avait fabriqué une sorte d'idole de Dieu, il faut absolument que... Et c'est pour ça que Dieu permet des épreuves dans notre vie, qui peuvent être liées à des épreuves, pas seulement de type purement mystique, hein, mais ça peut être lié à des épreuves, la maladie, la perte d'un être cher, etc. Oui. Alors, pardon.
Je dis ah oui.
Oui, merci. Donc, on récapitule, hein, la foi... Donc ça faut absolument nécessaire pour vraiment entrer dans notre désir de faire oraison et de méditer. Et puis, donc la foi et la confiance, une confiance totale, mais on sait bien que cette confiance, elle ne sera jamais totale et qu'elle sera mise à l'épreuve et que nous serons éprouvés dans notre désir de nous mettre vraiment, de désirer vraiment méditer au quotidien, etc. Nous serons éprouvés dans... justement notre capacité. Et là, il faudra justement, dans la foi, dire « Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de ma foi, c'est ce que je demande. Quand j'ai besoin vraiment d'aide, de force, parce que je demande la force pour quelque chose, je demande la grâce pour quelque chose. » Alors quelquefois, j'ai le sentiment qu'il me la donne, et puis ensuite elle se retire, je tombe par terre, je dis « Seigneur, suffit. » Et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne, mais comme nous venons de l'apprendre, et nous avions terminé là-dessus, hein, c'est pas tellement... l'homme ne plaît pas à Dieu d'abord par ses vertus et ses mérites, mais avant tout par la confiance en bord qu'il a en sa miséricorde. Et ça, ça dit tout. Alors, foi, confiance, fidélité, persévérance, pureté d'intention. Donc cette pureté d'intention qui fait que je recherche la joie de Dieu, et là c'est un petit raccourci évidemment, se souvenir que il y a ce mystère de cette... ce que tu disais tout à l'heure à propos de cette joie de Dieu, de ce Dieu qui souffre de ne pas être aimé. Et donc c'est un des aspects vraiment importants qu'il nous faut percevoir. Et pour l'instant, on ne le perçoit que par la foi. Mais il viendra le temps où nous allons le percevoir dans l'expérience. Et ça, c'est tout autre chose. Pour cela, il faut que nous abordons un chapitre qui s'appelle « L'humilité et la pauvreté de cœur ». Alors, quelques-uns m'ont demandé de terminer par la prière tout à l'heure de Saint-François, que nous appelons le testament de Saint-François, et qui est lié justement à ce mystère de l'humilité et de la pauvreté de cœur. Nous avons déjà cité la parole de Sainte-Thérèse d'Avila. Tout cet édifice de l'oraison est bâti sur l'humilité. En effet, comme nous l'avons dit, il est non fondé sur les capacités de l'homme, mais sur l'action divine. Et l'Écriture dit, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » C'est le père Nathalie Malkin, je ne sais plus dans quel ouvrage, où il dit « Lorsque un cœur, à l'instant où un cœur devient humble, et l'humilité c'est très simple, c'est « Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours là, quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans le désarroi intérieur. » Et l'amour de Dieu, l'Esprit Saint jaillit, il ne peut pas résister à un cœur humble. Il ne peut pas résister à un simple mot humble. Il ne peut pas résister à un mouvement du cœur humble. C'est immédiat. jaillit et communique toute l'intensité dont nous sommes capables de l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas ce n'est pas les capacités de l'homme, sa technique, son expérience, ses connaissances. Et nous disions, je vous parlais avec André tout à l'heure, c'est important d'avoir, on a tous une certaine culture, on a fait des études, on a des centres d'intérêt, mais au moment de l'oraison, tout ceci ne sert à rien. Ça sert à nous mettre dans cette disposition intérieure, mais ne cherchons pas à nous en servir parce que là, il faut se dépouiller, il faut être petit, il faut être vite, il faut être humble. L'humilité fait donc partie aussi de ces attitudes fondamentales du cœur, sans laquelle la persévérance de la prière est impossible. L'humilité est la capacité paisiblement d'accepter sa pauvreté radicale. Sa pauvreté radicale, oui, parce que lorsqu'on entre dans la prière, dans l'oraison vraie, cette oraison qui nous fait entrer dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans l'amour de Dieu. Plus nous allons faire l'expérience de cette communion, ô combien bienheureuse, eh bien, en même temps, va se révéler en nous, plus que dans notre relation avec les uns et les autres, va se révéler ce que nous sommes vraiment. Tout ce qui en nous fait obstacle à cette communion. Tout ce qui en nous ne veut pas ouvrir à cet amour, toutes les blessures profondes, toutes nos fragilités, tout le déni que nous avons habituellement en ce qui nous concerne. Vous savez que la fête du Mardi Gras, le carnaval, autrefois, puisqu'on se déguisait, on mettait des masques, c'était une façon de montrer que juste à l'entrée du Grand Carême, eh bien que nous avions tous des masques. Et en général, on serait celui qui nous plaît mieux, mais qui étrangement a quelque chose à voir avec les masques qui sont en nous. Alors, c'est dans l'oraison que mystérieusement nous est révélé, oui, Dieu nous donne la grâce de nous voir peu à peu tel que nous sommes. Déjà que dans la vie communautaire, il y a déjà un sacré dégrossissage qui se fait. Et je vous disais tout à l'heure, la relation, c'est pas parce que tout évêque que je suis, d'abord je vis en communauté déjà, mais quand un frère ou une sœur a besoin de faire quelque chose, eh bien, il y a de ce point de vue-là une parfaite égalité, heureusement. Voilà, heureusement. Et je suis heureux qu'il y ait cette confiance mutuelle où on peut se dire, et je crois que c'est quand même une charité, quoi. On peut se dire les choses et on peut les entendre parce que sans cela, on ne pourrait pas grandir. Mais ce qui se révèle vraiment en profondeur, c'est ce que va nous donner l'oraison. Donc, l'humilité et la capacité d'accepter paisiblement sa pauvreté radicale, parce qu'on met toute sa confiance en Dieu. L'humble accepte joyeusement de n'être rien. Ce n'est pas notre cas en principe. On a envie d'être quelqu'un, d'être quelque chose dans notre humanité. Mais là, dans la vie spirituelle, nous prenons un chemin radicalement différent. J'accepte de n'être rien. Je décide d'ailleurs que ça n'a pas d'importance, parce que ce qui va être donné est d'un tout autre ordre. C'est une autre voie. Vous savez, la métanoïa, ce mot grec veut dire retournement. C'est comme si soudain c'était le monde à l'envers. Comme si les choses ne se déclinaient plus de la même manière, ne se comprenaient plus de la même manière. C'est la justice de l'amour. L'humble accepte joyeusement de n'être rien parce que Dieu est tout pour lui. Il ne considère pas sa misère comme un drame, mais comme une chance, car elle donne la possibilité à Dieu de manifester combien il est miséricordieux. Oui, je suis un être blessé. Oui, je suis un être fragile. Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai des addictions. Oui, j'ai des travers, tout ce qu'on voudra. Et parfois, je souffre terriblement de cela sans pouvoir jamais m'en débarrasser. même si j'ai fait toutes sortes de thérapies. Mais Dieu me dit, viens, venez à moi, vous tous qui pliez sous le fardeau de vos misères. C'est moi qui le rajoute, ça. Venez à moi. Prenez mon joug. Mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur. Mon joug est léger. Avec moi, tout va devenir léger. Parce que vous avez été créé, c'est moi qui rajoute, hein, que vous avez été créé pour être en communion avec moi. Et c'est cette séparation qui a fait vous des êtres souffrants. En quête de bonheur. Je suis le bonheur. Et il y a donc cette certitude qu'il n'y a de guérison que dans cette rencontre, de guérison vraie, j'entends, que dans cette vraie rencontre avec le Christ. Parce que Dieu est tout pour lui, il ne considère pas sa misère comme un drame, mais comme une chance, car il donne la possibilité à Dieu de manifester combien il est miséricordieux. Sans humilité, on ne peut pas persévérer dans l'oraison. En effet, l'oraison est inévitablement une expérience de pauvreté, de dépouillement, de nudité. C'est pour ça qu'il est dit avant qu'on ne recherche pas d'atteindre un état particulier, d'expérimenter des émotions, un ressenti, comme on dit souvent, etc. Rien de tout cela si nous voulons nous acheminer vers cette toute autre réalité. Dans les autres activités spirituelles ou les autres formes de prière, on a toujours quelque chose sur quoi s'appuyer. Un certain savoir-faire que l'on met en œuvre. Le sentiment de faire quelque chose d'utile, etc. Ou bien encore, dans la prière communautaire, on peut s'appuyer sur les autres. Dans la solitude et le silence face à Dieu, on se retrouve au contraire seul et sans appui face à soi-même et à sa pauvreté. Comprenez que quand on chante ensemble, quand Marc vous fait chanter le chœur, quand le prêtre célèbre, tout est organisé, voilà. Cette rencontre avec Dieu, elle est communautaire. Et on a besoin aussi de cela. Mais là, l'oraison, il n'y a plus rien. Et si nous sommes vraiment honnêtes, on accepte de se mettre à nu. Mais croyez bien que ce n'est pas facile à faire. Parce que vous avez remarqué d'abord les réticences que nous avons, qui sont tout ce que notre moi peut projeter à travers les pensées, à travers, tiens, d'un seul coup, J'ai mal, vous savez, il en inverse des trucs pour nous tirer de l'oraison. Et notre travail, c'est de le faire taire pour essayer de se ramener sans cesse vers. C'est le sens, l'inverse du mot péché. Le mot péché qui veut dire la cible a été ratée. C'est-à-dire que tout, au lieu de centrer ça sur la cible du cœur, eh bien, tout ce qui est dans notre nature humaine livré au moi est au service égoïste du moi. Et donc là, il s'agit que toutes les manifestations du moi, dans l'oraison, à ce moment-là, se mettent au contraire vers la source du cœur. C'est pour ça qu'il y a ce débat. Ça me fait penser à nos ânes. On a deux ânes. Les ânes, c'est des animaux qui sont extraordinaires. Grandes oreilles. Alors les pauvres, souvent, ce sont des misères. C'est pour ça que le Seigneur, il avait un choisi un pour monter à Jérusalem, pour montrer combien ces animaux étaient grands. Alors on a deux ânes. Il y en a un qui est assez costaud, mais assez maladif, parce que là, on est en train de soigner pour une maladie. Et puis, il y en a un autre petit, tout petit. C'est un facétieux. Alors lui, il vient nous fouiller les poches. L'autre jour, je remplissais le bac à eau. Il vient par derrière, il prend le tuyau, il le sort du bac, il file. Il y avait une brosse... C'est vraiment... Une brosse, ce sont les brosses, tous les jours on a un contact avec eux. Et à bout de la brosse, il y avait comme ça une sangle, il chope la brosse et il la fait tourner comme ça. Et c'est un jeu, il l'a fait plusieurs fois, donc c'est vraiment un jeu. Et il est très drôle. Mais pourquoi je vous raconte ça, en fait? Je crois que l'oreille ne serait pas changé, mais je ne sais pas pourquoi j'ai...
C'est l'intérieur, ça se débat.
Comment ?
L'intérieur, ça se débat. C'est comme le moi.
Tu disais que c'était un animal très grand, que le Seigneur avait choisi pour un...
Oui, mais c'est un avantage. Il y avait quelque chose en tête que j'ai passé, mais ça ne fait rien. Donc, on a deux ânes, après tout on peut sortir un peu du cadre. Hein. Et quand si vous venez chez nous, vous allez voir, ils sont vraiment sympathiques.
Ils ont une vie de 50 ans, je crois.
Comment ?
Les ânes,
40 ans, il paraît. 40 ans.
Je ne sais pas comment ils s'appellent les ânes.
Alors il y en a un qui s'appelle Kiwi, mais ça c'est le, on nous l'a donné, et l'autre, on l'a trouvé. Quelqu'un est venu nous voir et dit, ah, il y a un âne sur le bon coin.
Cannabis, il y en a un qui s'appelait Cannabis.
Et, oui, il s'appelait Cannabis. C'est un jeune qui l'avait. Et donc, on s'est dit, on ne va pas garder le nom de Cannabis parce qu'il y a des gens qui vont jaser. Donc, on va l'appeler Jéricho parce qu'il était, au début, il était... Il se mettait à braire. Et donc, on s'est dit, tiens, c'est comme ça qu'ils font penser au trophée de Jéricho. Donc, on voulait donner un nom biblique, c'était tout trouvé. Maintenant, il est tellement bien apaisé, tout ça, qu'on ne l'entend plus. Et bon, ça ne fait rien. Voilà, il y a deux ânes. ça va venir. Peut-être que ça me reviendra, ça rien. Donc, à force de dire des trucs, je ne sais plus où j'en suis. Sans humilité, donc, on ne peut pas persévérer. En effet, l'oraison est inévitablement une expérience de pauvreté, de dépouillement, de nudité. Voilà, je parlais des autres activités spirituelles, où là, on avait vraiment un support, mais quand on est face à Dieu, on n'en a plus. Ah, je vous disais aussi, oui, c'est pour ça que le petit moi, il a tellement tendance à résister. Il résiste et qu'il refuse que toutes les énergies, ce qu'on appelle les puissances de l'âme, puissent être orientées vers la source du cœur. Et dans l'oraison, c'est l'instant le plus efficace, je dirais, pour vraiment progresser dans cette réalité spirituelle. Dans l'oraison, il est donc impossible d'échapper à cette expérience de pauvreté. C'est vrai qu'on y fera souvent l'expérience de la douceur et de la tendresse de Dieu, parce que le Seigneur, il sait que s'il ne donne pas, oui, c'est comme les ânes. Les ânes, quand on veut obtenir quelque chose d'eux, ils sont, et puis c'est des malins, hein, et une seule chose, ils s'en souviennent des années. Si on veut, on leur donne un petit
carotte,
une pomme, un petit morceau de pain, ou alors des petites gâteries qui sont faites pour eux, et comme ça, ils acceptent quand on veut leur nettoyer les sabots ou autre. Surtout le petit, l'autre, c'est un sage. Se laisse faire. Mais le petit, c'est un drôle de roublard. Et le Seigneur, lui, il nous accorde de temps en temps quand même des consolations, parce qu'on ne peut pas vivre dans cette aridité-là. C'est impossible. On se découragerait. Il sait combien nous sommes fragiles. Donc, à un moment, et quelquefois, il faut dire, écoute, Seigneur, là, toi, je suis au bout du rouleau, là, il faut que tu fasses quelque chose. Le Seigneur, il nous laisse faire. Et il sait comment ça fonctionne. Et donc, il nous donne des consolations. Il nous donne de temps en temps des touches de sa tendresse pour que cette prière ne soit pas trop aride. Donc, fréquemment, ce sera notre misère. Mais oui, il nous donne de la douceur et de la tendresse. Mais fréquemment, ce sera notre misère qui va se révéler. Notre incapacité à prier, nos distractions, les blessures de notre mémoire, de notre imagination, le souvenir de nos fautes, de nos échecs, de nos inquiétudes à l'égard de l'avenir, bref, de nos angoisses, etc. L'homme trouvera donc mille prétextes pour fuir cette inaction devant Dieu. Vous connaissez tous, hein, on est toujours être dans le faire, et on a une énorme difficulté à être dans l'être. Donc l'homme trouvera mille prétextes pour fuir cette inaction devant Dieu, qui lui dévoile son néant radical. Parce qu'en fin de compte, il refuse de consentir à être pauvre et fragile. C'est ça la toute grande difficulté. Et nous ne le savons pas à quel point nous avons tant de mal à lâcher. Que nous voulons toujours tout comprendre, que nous voulons tout maîtriser. Là, c'est l'inverse. On fait l'apprentissage exactement l'inverse. Je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on sait, toute notre expérience, toute notre sagesse du monde, il faut la laisser à la porte de l'oraison, ça ne sert à rien. Comme je vous l'ai dit, ça peut nous introduire, nous aider à entrer dans cet état d'oraison. Mais après, il faut concéder à être rien. Et c'est là qu'on va faire l'expérience de quelque chose de radicalement différent, qui d'ailleurs va beaucoup influencer ensuite notre regard sur les êtres et sur les choses, et sur notre façon d'apprendre. Je dis d'apprendre dans nos lectures, dans nos mots, etc. Mais c'est précisément cette acceptation confiante et joyeuse de notre faiblesse qui est la source de tous les biens spirituels. Car il est dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume de Dieu leur appartient. » Ils ont fait une faute de frappe là. « Car le royaume des deux leur appartient. » L'humble est celui qui persévère dans la vie d'oraison sans présomption, sans compter sur lui-même, qui ne considère rien comme un dû, qui ne se croit pas capable de faire quoi que ce soit par ses propres forces, qui ne s'étonne pas d'avoir des difficultés, des fragilités, des chutes constantes, mais qui supporte tout cela paisiblement sans rien dramatiser. Car il met en Dieu toute son espérance et il est sûr d'obtenir de la miséricorde divine tout ce qu'il est impuissant à faire ou à mériter par lui-même. Et encore une fois, parce que ce que nous avons à découvrir n'appartient pas à l'expérience humaine, n'appartient pas au savoir humain, n'appartient pas à tout ce que je pourrais avoir vécu dans mon existence. Ce à quoi nous allons à ce moment-là et commence dans un chemin radicalement différent qui est cette rencontre avec Dieu et dans l'Esprit Saint va m'enseigner ce que, encore une fois, Saint Paul dit, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce que l'homme n'a jamais expérimenté et que le Père, dans sa miséricorde, accorde à ceux qui se font petits, à ceux qui acceptent d'être justement dans la réalité de cette pauvreté radicale. Parce qu'il met sa confiance, non en lui-même, mais en Dieu, l'humble ne se décourage jamais. Et en fin de compte, c'est cela le plus important. C'est le découragement qui perd les âmes, dit Lieberman. La vraie humilité et la confiance vont toujours de pair. Il ne faut jamais se laisser démonter par exemple à cause de notre tiédeur, de notre peu d'amour pour Dieu. Un débutant dans la vie spirituelle peut parfois, en lisant des livres ou des écrits de saints, se décourager devant les expressions enflammées de l'amour de Dieu qu'il y trouve et dont il se sent bien loin. Puis vous savez, pendant un temps, il y avait un style. Le saint, il était déjà en adoration devant le Saint-Sacrement, il avait déjà vu Jésus. Saint François, on le fait naître comme Jésus dans une crèche. Tout ça, ça a été brodé. Et comme si... Alors c'est vrai que c'est décourageant, parce que quand on regarde notre vie, ben, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Moi, quand je regarde mon existence et ma vie, je me dis, mais Dieu m'a appelé, je n'ai jamais eu de vocation. J'étais pas comme le père Bernard qui voulait être déjà le pape alors qu'il était tout petit. Et...
Non,
Ah ben non,
c'est le président de la République.
Et donc, je me dis, mais quelle grâce déjà cet homme avait reçu de cet appel divin. Et je me dis, mais moi, je n'ai jamais ressenti ça. Quoi. Je me suis marié, j'ai eu une fille, j'ai
c'est
une
fille les meilleurs,
faut pas
les
dire.
C'est énorme, hein, Monseigneur.
Oui, c'est vrai.
C'est les meilleurs.
Oui.
Et surtout ceux qui ne veulent pas y aller, on le
prend
par la
faute. Oui. Alors ben moi, c'est sûr qu'il m'a traîné un peu par le cou, par le col. Alors, c'est... Non mais... Heureusement qu'il y a des gens comme toi qui sont assez bonheurs. Et donc...
Mais tu bronzes un peu, là, non?
Oui, il faut un peu quand même. Eh bien, il suffit simplement de se laisser porter et de découvrir que tout ça fait partie d'un tout et finalement d'une certaine pédagogie. Alors donc, en ce qui me concerne, je ne crois pas. Hein. Et donc il y a... Mais j'ai senti au fond de mon cœur quand même, à un certain moment, dans des circonstances, que le Seigneur m'appelait. Et, mais frère Anne, lui... Vous ne voulez pas suivre. Parce que, je veux dire, quand on sent qu'on pourrait faire des tas de choses, que vraiment c'est ce combat entre la chair et l'esprit, hein, c'est pas compliqué. Mais quelque chose en moi disait, tu ne peux pas faire autrement que de... Alors donc, j'étais en... Et vous savez, les âmes, des fois, quand ils n'ont pas envie d'avancer, eh ben, ça n'avance pas. Alors surtout, il ne faut pas les battre. Il faut rester doux et humble avec eux. Et le Seigneur, lui, ne m'a pas battu. Il s'est dit, bon, tu fais la tête. Tu ne veux pas y aller? Eh ben, reste là. Puis quand je me suis rendu compte que rester sans bouger, ça ne servait à rien, donc j'ai bien oublié de repartir. Donc voilà. Et c'est vrai que... je ne sais plus pourquoi je vous raconte tous ces trucs-là, d'ailleurs. Voilà. Donc là, l'humble... Voilà, il ne faut jamais se laisser décourager, comme je vous le disais, à cause de notre tiédeur, de notre peu d'amour pour Dieu. Un débutant dans la vie spirituelle peut parfois, en lisant des vies de saints ou des vies ou des écrits de saints, se décourager devant les expressions enflammées, devant, c'est vrai, des témoignages mystiques, et dont on pourrait se sentir très loin. Il se dit, l'humble, qu'il n'arrivera... Non, il se dit que celui qui... s'inquiète, qui n'arrivera jamais à aimer avec une telle ardeur. C'est une tentation très commune. Et c'est vrai que quand on y met tout son courage, tout son, et qu'on se dit, mais on fait des comparaisons, je sais, et il n'y a rien de pire que les comparaisons. Parce que Dieu se cache le travail qu'il fait en nous. Et moi, je sais que j'ai des frères et des sœurs qui me disent, ouais, je suis nul, je n'arrive pas, etc. Mais quand je les vois vivre, quand je vois avec quel... courage, charité, je me dis, je lis en eux l'œuvre de Dieu. Et je me dis, ben, franchement, quand toi tu auras ces vertus, je rends grâce. Vraiment, je rends grâce et je me réjouis. Et eux ne se rendent pas compte. Bienheureux sont-ils, parce que s'il n'y a rien de pire que de se dire, ah, tiens, je suis en train de devenir bon. Et donc, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a rien de pire de ça, quoi. Et il se dit qu'il n'arrivera jamais à aimer avec telle ardeur. C'est une tentation très commune. Persévérons dans la bonne volonté et la confiance. C'est Dieu lui-même qui mettra en nous l'amour avec lequel nous pouvons l'aimer. L'amour fort et brûlant. Pour Dieu n'est pas naturel. Il est infusé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous sera donné si nous le demandons avec l'insistance de la veuve de l'Évangile. Ce ne sont pas toujours ceux qui ont le plus de ferveur, sensibles au départ, qui vont le plus haut dans la vie spirituelle, loin de là. Encore une fois, beaucoup de mes frères et sœurs ont le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup d'humilité chez eux. Et c'est pour moi une, je veux dire, la manifestation de l'extraordinaire miséricorde et don de Dieu. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont plein d'amour, plein de vertus, une disponibilité sans faille. Je veux dire, c'est vrai que c'est et parmi vous, c'est évident qu'il en est ainsi. Et on voudrait toujours copier quelque chose qu'on ne fait pas, etc. Et donc, Dieu travaille secrètement. Mais plus nous serons dans cette confiance-là, plus nous serons dans cette humilité-là, plus nous serons dans l'oubli de nous-mêmes, dans cette foi absolue, plus le Seigneur pourra vraiment installer son royaume dans notre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'humilité. Alors, évidemment, tout ceci, foi, confiance, la persévérance, la fidélité, nous avons vu aussi la pureté d'intention, c'est-à-dire ce dépouillement dans nos intentions, où nous n'avons que le désir de faire la volonté de Dieu, de donner de la joie à Dieu. Et tout ceci dans un chemin d'humilité et de pauvreté que nous venons d'entendre. Nous restons encore très en surface, que nous pourrions dire beaucoup de choses sur tout cela encore. Mais il nous faut revenir à cette nécessaire désir de déterminer à persévérer. C'est ça, notre fragilité. Parce que, encore une fois, on attend des fruits, et on a l'impression que ça ne sert à rien, etc. Et ça, inévitablement, on y sera confronté. Et quelquefois, pas forcément directement, mais on va trouver des fuites, on va trouver qu'on n'a pas le temps, on va trouver que, etc., etc. Il faut que nous soyons absolument déterminés à consacrer, à persévérer dans cette oraison, sinon, eh bien, nous n'irons pas au bout des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'aider, ensemble, nous épauler, nous encourager les uns les autres, pour que vraiment, c'est dans cette persévérance que Dieu pourra construire. Vous imaginez par exemple, vous construisez une maison, et alors, on commence à mettre une première ligne de briques, je vois qu'ici on construit beaucoup avec des briques, et puis, on laisse ça pendant un temps parce que j'ai plus le temps, ou du moins j'ai du temps. L'hiver arrive là-dessus, et la pelote et tout ça, ça va vous démolir ce que vous allez faire. Et donc, vous ne pouvez pas construire là-dessus. Il faut recommencer. Donc, c'est un petit peu à l'image de la vie d'oraison. Il faut vraiment qu'on soit persévérant. Même si pendant 15 jours, un mois, on a plus que relevons-nous, recommençons. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'à ce que nous puissions vraiment, véritablement installer ça. On mange tous les jours. Trois fois par jour, quelques fois plus. Même si c'est comme ceux qui ont vu le Seigneur des Anneaux, vous savez, les Hobbits, ils ont, je ne sais pas quoi, 5-6 déjeuners dans la journée. Et, c'est un petit peu ce qui nous arrive, nous. Hein. On a déjeuné ce matin, ce midi, on a eu un thé garni. Et puis on va encore manger ce soir, et allez savoir si à la fin des discussions on ne va pas se faire une soupe à l'oignon. Et donc ça fera 6 fois dans la journée, on sera des vrais hobbits là. Donc, mais la prière, eh bien non. L'oraison, j'entends. L'oraison. Merci pour, encore une fois pour ce matin d'avoir. Ça se trouve, il en fait pour moi, il ne faut rien tous les jours, mais moi, ce que je vais retenir, c'est ce moment d'oraison, vraiment, c'était une bénédiction, et que ce soit comme ça tous les jours, ça sera vraiment un grand bonheur. Voilà, donc, persévérer, c'est le sens pour lequel Dieu nous donnera sa grâce. Dieu nous donnera la force. Il faut demander sa grâce. Seigneur, j'arrive pas. Viens à mon secours, aide-moi. Et puis demandez à votre ange de vous secouer la prière. Si vous le demandez avec persévérance, je peux vous dire qu'il va vous trouver un moyen pour vous avertir. Ça marche à tous les coups. Parce que l'ange, notre ange, il est là pour nous aider. Il est comme un chien d'aveugle. Parce que lui, il voit clair. Et il nous protège, il nous guide, parfois dans nos pensées. Et il sait de donner un petit coup de pouce pour éveiller notre conscience. Il doit y avoir un dialogue entre lui et nous, beaucoup plus souvent que nous le faisons. Cet ange nous a été donné dès notre conception. Et il nous accompagnera jusque dans l'éternité. Il y a quelque chose entre nous et l'ange gardien comme quelque chose qui est d'une sorte d'affinité profonde, d'intimité profonde. Quelque chose qui est de l'ordre même d'une sorte de symbiose, tout en étant, évidemment, ce n'est pas fusionnel, hein, au sens de deux êtres différents, mais mystérieusement, il a affaire avec toute notre croissance, depuis l'origine de notre création et jusqu'à l'éternité. Donc il faut vraiment lui demander, et croyez bien que ça marche. Ça marche trop bien quelquefois. Voilà, mes chers frères. Alors, je voudrais terminer par cette phrase de Sainte Thérèse d'Avila, si chère à Rachel. Elle dit, à propos de l'oraison, « Maintenant, pour en revenir à ceux qui veulent suivre cette voie, cette sans trêve, jusqu'au bout, qui est arrivé à voir cette eau vive, je voudrais m'arrêter juste. Quand on parle de cette communion, oui, lorsque le Seigneur, debout au milieu de la fête à Jérusalem, dit, en citant les Écritures, de mon sein, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est de cette eau vive là dont il s'agit. C'est de cette eau vive là que nous allons recevoir dans l'oraison. Vous vous rendez compte? C'est eau vive que nous recevons aussi dans l'Eucharistie, certes, mais si nous entrons dans la pratique quotidienne de l'oraison, Je vous donne l'assurance et la certitude que lorsque vous vous approcherez du corps et du sang du Christ, qui est sa vie, qui est cette eau vie jaillissante de son amour, eh bien votre cœur ne le recevra pas de la même manière. Et peut-être serez-vous troublé au point que vous rentrerez dans une sorte de frémissement intérieur devant la grandeur de cet amour, et que vous le recevrez avec un cœur si humble qu'il vous remplira, et que vous aurez le sentiment d'une véritable illumination intérieure. Oui, le Seigneur nous appelle à cette expérience-là. Il nous appelle à goûter à ce mystère-là. Alors Sainte Thérèse nous dit qu'il est arrivé à voir cette eau vive. Je répète que les débuts sont très importants. Les débuts sont très importants. Tout consiste en une ferme détermination. Très déterminée. Alors, une ferme détermination très déterminée. C'est beaucoup ça. Hein? De ne point s'accorder de répit jusqu'à ce qu'on y atteigne, coûte que coûte, advienne que pourra, travaille que travaillera, médise que médira, à condition d'y arriver. Même si on mourait en route, ou si on manquait de courage devant les épreuves du chemin, même si le monde croulait. Ça veut dire que si on s'engage dans ce chemin, eh bien, on va vraiment le faire, quelles que soient les circonstances, qu'on soit malade ou pas, que nous soyons dans telle ou telle circonstance, de persévérer, parce que c'est si important. C'est si fondamental dans notre vie chrétienne. Je vous le redis, chers frères et sœurs, si nous prenons ce chemin, eh bien, ce qui va se révéler à nous changera radicalement notre vision de la vie chrétienne, parce que nous allons rencontrer le Christ. Nous allons goûter à son amour et nous allons surtout devenir ses apôtres de l'amour. Ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais nous allons devenir ses apôtres de l'amour dont Dieu a besoin, parce que le monde ne peut pas changer si notre cœur n'a pas été d'abord changé. Et si par notre cœur, Dieu ne peut pas déverser sa grâce sur le monde. Il a besoin de nous. Et il nous supplie de nous laisser aimer. Il nous supplie de l'aimer. Il nous supplie parce que le monde ne peut pas être sauvé sans nous. Le monde s'enfonce dans les ténèbres. Et nous, chrétiens, avons reçu la grâce, non pas d'avoir reçu soudain nous sommes une sorte d'élite qui sera sauvée, et demain matin, Dieu va venir régler les comptes à tous les méchants. Dieu nous appelle à collaborer à sa rédemption par la voie de l'amour. Et il nous montrera ce que nous aurons à faire chacun pour cela. Déjà, nous le faisons, c'est évident. Mais ce qui est à venir est bien plus grand encore que ce que nous connaissons et ce que nous faisons. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci.
Qu'est-ce qui est prévu?
À 5h, il y a les vêtres. Je ne sais pas s'il y a des questions ou quoi. Ou des...
Alors, si vous avez des questions... Simplement 3-4 questions, pas plus. J'ai le sentiment qu'il ne faut pas qu'on se dilue dans les questions. Non. Quelquefois, il faut rester sur une impression, sur une conclusion. On aura l'occasion de s'interroger. On se reverra peut-être à l'occasion peut-être de ce blog que je vais ouvrir. Marc Guichard désespère de me... Ça fait un an et demi qu'il me dit « Quand est-ce que tu ouvres ton blog ?» Alors, de temps en temps, il est un petit peu comme le pic qu'on mettait aussi pour piquer les bœufs autrefois. Quoi. Mais voilà, c'est le moment est venu. Voilà, une question.
Je n'ai pas de question. Je voudrais juste apporter un peu d'eau à votre moulin. Pendant des années, je me suis demandé si vous voulez dire Kyrie Eleison. Jusqu'au jour où à Gorze, Rachel a donné une explication, sa traduction, et c'était « Seigneur, pénètre-moi de ton feu brûlant ». Ça m'a parlé. Parce que j'ai souvent vécu des périodes de sécheresse de cœur, et maintenant je dis Kyrie Eleison avec Seigneur, fais-moi brûler de ton feu. Voilà. Juste ça que je voulais dire.
Merci. C'est très éclairant. Et puis on va prendre l'air, juste avant les vêpres.
Oui.
Et puis rien.
C'est à 5 heures, on va chanter les vêpres.
On rendra grâce.
Quoi?
On ne rendra pas grâce.
On rendra grâce dans les vêpres.
Hein?
On peut le faire maintenant.
On peut le faire maintenant, si vous voulez.
Il y a Mec Monsurmel qui disait, il n'y a pas de grand homme pour sa femme et son valet de chambre. Je vois qu'elle te conteste, elle n'a pas pensé un seul instant que ce que tu as dit était inspiré par l'Esprit Saint.
Tu comprends pourquoi je voulais devenir pape?
Oui.
Allez.